Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. La majorité redécouvre l'écologie en première position dans le programme de la liste En Marche pour les européennes. On le voit en détail dès le début du journal et reportage à Levallois où le parti présidentiel distribuait des tracts. Ce matin, beaucoup de pluie, mais pas grand monde. L'ultimatum de Téhéran sur son programme nucléaire. Les signataires de l'accord de 2015 doivent protéger l'Iran des sanctions américaines. Un an tout juste après le retrait de Washington. On verra si les Européens s'entendent sur la question. Au sommaire également ce soir, la déconcentration pour financer les baisses d'impôts. De plus en plus d'alcool consommé dans le monde, 6 litres et demi par adulte et par an en moyenne. On vous expliquera pourquoi. Les Sud-Africains aux urnes, l'ANC de Mandela favori, reportage à Soweto avec le président Ramaphosa. Ajax ou Tottenham, qui pourra affronter Liverpool en finale de la Ligue des Champions ? Réponse ce soir. Et puis au téléphone, sonne Fabienne de la télévision.
Absolument. Savez-vous, Sébastien, que le replay a été multiplié par 3 en 5 ans. Le marché de la VOD, la vidéo à la demande, a augmenté de 80% en 2 ans, tiré par Netflix, c'est vrai. Mais néanmoins, qui sont ces gens étranges qui regardent donc toujours la télévision en flux ? Télé à la carte, priorité au replay, la révolution est en marche. On en parle au 01 45 24 7000. Vous pouvez appeler, Sébastien, si c'est vous.
France Inter. Le temps passe et le temps presse à 18 jours des Européennes. Alors la République En Marche est sur le pont, même les jours fériés, même sous la pluie, pour tenter de creuser l'écart avec le Rassemblement National donné au coude à coude. Emmanuel Macron qui secoue ses candidats hier soir dans un restaurant parisien. Édouard Philippe en meeting lundi avec Nathalie Loiseau. Et mobilisation sur le terrain en ce 8 mai. On sera donc dans un instant en banlieue parisienne. Mais d'abord, avec vous, bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Sébastien.
Le fond de ces élections qui ne passionnent guère, les programmes que les listes commence à livrer. On a eu aujourd'hui celui de la majorité, l'AREM Modem, avec le retour de l'oublié du grand débat, la transition écologique.
Elle figure même en une de ce document d'une trentaine de pages. Première des priorités, cette transition écologique, alors qu'en mars, la lettre du président parlait d'abord des frontières. Les eurodéputés macronistes soutiendraient un plan d'investissement de 1000 milliards d'euros sur 5 ans pour développer les énergies et transports propres, la rénovation des logements et l'accompagnement des travailleurs en reconversion. Une proposition qui va de pair avec la création d'une banque pour le climat, banque dont Emmanuel Macron parlait déjà dans cette lettre de début mars. Emmanuel Macron, bien présent à la fin de sa profession de foi, avec photo, cité avec son triptyque « Liberté, protection, progrès ».
La protection sociale et fiscale qui est le deuxième pilier de ce programme.
Avec la taxation des géants du numérique et la fin de la règle de l'unanimité pour les questions fiscales, harmonisation de l'impôt sur les sociétés et le fameux SMIC européen, un salaire minimum adapté à chaque pays. Protéger aussi les frontières de l'Union, l'Europe de la défense, l'AREM confirme son projet d'aller vers une armée européenne et c'est seulement à la page 18 qu'il est question de lutte contre l'immigration, un vrai contraste avec les programmes de François-Xavier Bellamy chez les LR ou de Jordan Bardella au RN. L'AREM veut sauver Schengen en créant un office européen de l'asile et en dotant Frontex de 10 000 gardes-frontières. L'affirmation ensuite d'une identité européenne qui passe par plus d'échanges. Budget Erasmus multiplié par 3 pour y associer les collégiens et les apprentis. Enfin, la patte d'Emmanuel Macron, elle est encore visible dans la dernière proposition, celle d'un grand débat à l'échelle de l'Europe. Une grande conférence qui réunirait dirigeants, experts et citoyens tirés au sort, ce serait une aubaine pour une profession, Sébastien, interprète, métier d'avenir.
Voilà donc le programme de Renaissance, merci Yael. Et comme promis, voici l'opération tractage du jour, jour férié et pluvieux. Deux ministres et le patron du parti présidentiel pour l'occasion dans la rue à Levallois dans les Hauts-de-Seine. Gros dispositif Karine Bécard, mais à l'arrivée, une opération qui fait flop.
Oui, grosse opération, vous avez raison. Une trentaine de marcheurs au bas mot avaient été mobilisés pour tracter dans les rues de Levallois.
Bonjour madame, pour les élections européennes le 26 mai.
Mais très peu, très peu même de Levalloisiens pour accepter ces tracts.
Ça, non, mais ça ne m'intéresse pas. Jusqu'à présent, ça m'intéressait, mais là, franchement, pas cette année.
Donc, pour relancer cette campagne qui patine, le gouvernement a décidé d'y envoyer ses ministres, comme Adrien Taquet, par exemple, le secrétaire d'État à la protection de l'enfant.
Ça nous semble naturel d'aller défendre cette belle idée européenne. J'ai un beau sweatshirt Renaissance, comme vous l'avez vu, effectivement, pour porter haut les couleurs de notre liste. Ouais.
Avec une heure de retard, la ministre de la Santé a fini par arriver. Toujours personne ou presque à qui tracter. Agnès Buzyn en a donc profité pour réaffûter les arguments et remobiliser les troupes.
Sans une majorité de parlementaires qui pensent comme nous. Nous allons avoir des directives européennes votées par des extrémistes, par des nationalistes, et qui nous imposeront des choses que nous ne voulons pas.
Remobiliser les troupes parce que les rares échanges qui s'engagent sont souvent difficiles.
Mais je suis déçue, j'ai voté Macron, je suis déçue. Voilà.
Mais je pense qu'il sait où est-ce qu'il faut aller.
Il a un cap.
Il sait ce qu'il faut
il
faire.
Il a une vision. Il sait ce qu'il faut faire.
Mais le problème, c'est que les anciens savaient ce qu'il fallait faire aussi.
Reconquérir sa base électorale, ce ne sera pas facile pour La République En Marche, à 18 jours seulement du scrutin européen.
Reportage signé Karine Bécard. Emmanuel Macron a été, lui aussi, sous la pluie aujourd'hui pour les commémorations du 8 mai 45. Une gerbe de fleurs au pied de la statue du général de Gaulle au rond-point des Champs-Élysées à Paris. Puis la flamme ravivée sur la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe.
C'est un accord donnant-donnant qui a été signé en 2015 à Vienne.
L'Iran s'engage à limiter son programme nucléaire et à ne pas se doter de l'arme nucléaire en échange d'une levée partielle des sanctions internationales contre lui. Mais il y a tout juste un an, les États-Unis se retirent de cet accord. Alors aujourd'hui, Téhéran considère que le contrat n'est plus rempli. La République islamique suspend certains de ses engagements et donne 2 mois aux autres pays qui étaient à Vienne, Chine, Russie, Royaume-Uni, Allemagne et France, pour qu'ils le protègent effectivement des sanctions américaines. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes à Bruxelles. Pierre, quelles sont les réactions européennes et sont-elles à l'unisson ?
Il y a un consensus des 3 pays européens, signataires de l'accord de Vienne. Sur un point, il faut qu'ils survivent. Rien ne serait pire que de voir l'Iran quitter l'accord sur le nucléaire, selon le gouvernement français. L'Allemagne appelle l'Iran à mettre l'accord en œuvre dans sa totalité. Le Royaume-Uni abonde, qualifie l'accord de crucial. Il dénonce une décision malencontreuse de l'Iran qui doit, je cite, respecter ses engagements. Les 3 pays européens viennent, rappelons-le, de signer samedi un communiqué commun assez musclé pour dénoncer le renouvellement des sanctions américaines, pour rappeler d'une part que l'Iran tenait ses engagements et d'autre part qu'il fallait maintenir ouverts les circuits commerciaux et financiers. Mais il faut bien reconnaître que le système de troc baptisé Instex et mis en place par les Européens pour commercer avec l'Iran couvre essentiellement les échanges de médicaments, de nourriture, voire d'aide humanitaire. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne il y a un an, les Européens n'ont pas réussi à garantir les flux commerciaux et on voit mal pour l'instant quelle sera leur capacité d'action puisque par exemple ce système Instex annoncé en janvier n'est toujours pas entré en vigueur. Il y a aussi les récentes déclarations du ministre iranien des affaires étrangères. Il affirmait ces jours derniers être à 2 doigts de conclure un accord pétrolier avec l'UE. Des négociations non confirmées par ailleurs, mais qui sembleraient en tout cas être parties en quenouille.
Du côté des réactions encore, merci Pierre Benazet. Israël, qui ne laissera pas l'Iran se doter de l'arme nucléaire, promet Benjamin Netanyahou. Moscou, qui s'adresse aux États-Unis en demandant à tous les signataires de remplir leurs obligations. Et Washington, qui juge l'annonce iranienne intentionnellement ambiguë par la voix du secrétaire d'État Mike Pompeo et qui attend du concret avant de décider d'une réponse. Des bombardiers B-52 et le porte-avions Abraham Lincoln sont en route néanmoins déjà pour le Golfe ou déjà sur zone. Autre lieu, autre tension, le conflit au Yémen auquel participe l'Arabie Saoudite avec des armes livrées par la France, même si Paris assure qu'elles ne sont pas utilisées sur la ligne de front. C'est la cellule d'investigation de Radio France qui révélait en partie tout cela le mois dernier avec le site d'investigation Disclosed qui fait état d'un nouveau chargement d'armes Franck Cognard, ce soir, à bord d'un cargo saoudien qui est arrivé au Havre.
Les canons César que l'Arabie Saoudite a commandés ont déjà été acheminés, c'est ce qu'affirment plusieurs sources qui précisent bien qu'il n'y a pas de canons César en attente de livraison sur le port du Havre. A priori également, selon nos informations, le cargo Barry Anbu ne chargera pas non plus de Charles Leclerc, mais personne ne veut dire quelle sera la cargaison du navire saoudien en dehors d'un vague. C'est du matériel de guerre. Le gouvernement français est pressé par des ONG de faire comme l'Allemagne, décréter un moratoire sur la vente d'armes à l'Arabie Saoudite pour ne pas risquer leur utilisation contre des populations civiles. 60 000 personnes sont mortes depuis le début de la guerre au Yémen, une guerre que mène sur place, par procuration, le régime saoudien aux Iraniens. Le Barry Anbu avait plusieurs escales prévues en Europe, l'Angleterre, la Belgique, la France, pour y charger des armes commandées. En 2018, Riyad a dépensé plus de 65 milliards de dollars pour ses équipements militaires.
Et d'après les Nations Unies, 3 300 000 personnes sont toujours déplacées par le conflit au Yémen. Paris tente de faire entendre une position claire en Libye. Emmanuel Macron réaffirme son soutien au chef du gouvernement reçu à l'Élysée aujourd'hui. Après l'offensive du maréchal Haftar, depuis un mois dans l'est du pays, le président français demande un cessez-le-feu sans condition.
La consommation d'alcool augmente dans le monde.
Oui, on boit moins ou en tout cas autant d'alcool dans les pays riches, mais de plus en plus dans les pays dont le niveau de vie s'élève, lui aussi comme la Chine ou l'Inde. Étude publiée dans la revue médicale britannique The Lancet. Bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Qui fait le constat et des propositions pour faire baisser la consommation et les risques liés à l'alcool. On commence par le constat.
Oui, effectivement, la consommation d'alcool pur a augmenté dans ces pays dont le niveau de vie s'élève, alors que l'Europe arrivait largement en tête il y a une vingtaine d'années. Vous l'avez dit, la Chine, l'Inde, le Vietnam, on boit aujourd'hui plus que dans certains pays européens. Au Vietnam, par exemple, près de 9 litres par an, les records étant toutefois détenus par les pays d'Europe de l'Est, avec une moyenne de 19 litres chez les hommes. Ces pays dits à revenus intermédiaires sont les nouveaux relais de croissance des grands fabricants d'alcool, les pays riches commençant à réduire leur consommation. Le professeur Michel Reynaud est le président du fonds Action Addiction.
Les grands lobbies vont s'installer dans les pays qui ont les moyens d'acheter et qui n'ont pas le système de santé publique capable de les protéger. C'est ce qui s'est passé pour le tabac. C'est une démarche industrielle classique. Pour limiter la casse, il faut un système de régulation par l'État, lui-même poussé par les acteurs de santé publique fort, qui maintient et qui limite les consommations. Et comme il n'y aura pas la régulation, il y aura une augmentation de la mortalité, ce que dit l'étude du Lancet.
Alors pour réduire ces consommations, il faudrait aussi contrôler les distributions, comme ça a été fait dans les pays occidentaux. Mais dans de nombreux pays intermédiaires, une grande partie de la consommation échappe totalement au circuit officiel. Les auteurs de l'étude recommandent aussi la restriction de la publicité pour l'alcool. En Asie, par exemple, elles sont envahissantes. L'alcool va donc rester l'un des principaux facteurs de risque de morbidité. Et l'objectif de l'OMS de réduire la consommation d'alcool de 10% d'ici 2030, eh bien, ce ne sera pas atteint.
Daniel Messager, l'économie avec cette piste avancée par Gérald Darmanin dans Le Parisien aujourd'hui en France pour financer les 5 milliards d'euros de baisse d'impôts. Le ministre de l'Action et des Comptes publics songe à la déconcentration, faire quitter Paris ou de grandes villes à certains services pour les installer dans des régions où l'immobilier notamment est moins cher. Bonsoir Manuel Ruffez.
Bonsoir.
Des services et des régions sont même déjà envisagés.
Et oui, il donne des exemples, Gérald Darmanin. Aujourd'hui, Internet, dit-il, permet d'installer des services en Creuse, dans le bassin minier, en Bretagne, cite-t-il. Et pour les services, il parle des 3000 agents de la Direction Générale des Finances Publiques. Les impôts pour ces agents, ce n'est pas nouveau, on leur a déjà parlé, en termes choisis de déconcentration de proximité, ça c'est le ministre, ou même de géographie revisitée, ça c'est leur directeur général. Mais jusqu'à présent, sans plus de précision, Hélène Fauvel de FO Finances Publiques.
Jamais nous ne sommes rentrés dans les détails des services concernés, du nombre d'agents, d'où on allait les faire partir et pour les envoyer où, avec quel accompagnement, quelles conséquences pour eux, quelles conséquences aussi pour ceux qui ne souhaiteraient pas suivre la mission délocalisée. Tout ça, c'est le grand flou.
Alors, en attendant de sortir du flou, eh bien, ces annonces, affirme Olivier Courbeva, debout de la CGT Finances Publiques, ne font que générer de l'inquiétude.
La Creuse, c'est un super département où y vivre. Le problème, c'est qu'une partie des collègues qui travaillent et vivent à Paris ont choisi de le faire. Ils ont choisi de vivre sur Paris. Pour eux, c'est plutôt une source d'inquiétude et de stress aujourd'hui de se demander « j'ai construit ma vie à Paris et on va me dire demain de déménager je ne sais trop où pour faire je ne sais quoi ». Donc c'est plus stressant qu'autre chose aujourd'hui.
Et on se souvient, rappelle encore Olivier Courbeva debout, de l'INSEE déplacé il y a 10 ans à Metz. C'est de la com politique, affirme-t-il. Si c'était vraiment efficace, il y a bien longtemps qu'on aurait tous déménagé.
Manuel Ruffez, ces baisses d'impôts toujours jugées insuffisantes par certains gilets jaunes, ils étaient plusieurs centaines mobilisés aujourd'hui pour le 8 mai à Toulon, Isabelle Dorm.
En tête de cortège, une immense banderole avec ce jeu de mots. Le gilet jaune plie, mais ne rompt point. Et derrière, des manifestants toujours excédés par l'attitude du gouvernement.
On a l'impression que depuis 6 mois, on n'est pas entendu, que le gouvernement reste complètement sourd. Il y en a marre.
Révolution ! Révolution pour quoi ?
Pour plus de justice, parce que de l'argent en France, il y en a.
Non seulement il n'y a pas eu de réponse au niveau des revendications sociales, il y a juste de fausses promesses, des mesurettes. Et en plus, au niveau de la répression, il y a même un déni, c'est-à-dire même pas on entend une seule fois de la compassion pour les gens qui ont été blessés.
Les Français veulent que les choses changent. Fini les vieux qui font les poubelles, fini les jeunes qui galèrent. La France aux Français, sans les politiques.
Vous, madame, vous portez un drapeau français avec la croix de Lorraine.
C'est le symbole de la résistance, c'est avant De Gaulle. De Gaulle l'a fait sienne, mais avant c'était la résistance. Et on résiste à un gouvernement. Et c'est bien plus qu'une simple question de taxes.
À la fin de la manif, en arrivant sur les plages de Toulon, des hommes en noir et cagoulés ont tenté de remonter vers le centre-ville, mais ils ont été rapidement refoulés par les forces de l'ordre et quelques grenades lacrymogènes. Toulon, Isabelle Dor, France Inter.
Elle est toujours menacée de mort par des fondamentalistes musulmans, mais Asia Bibi a quitté le Pakistan. Elle avait été condamnée à mort pour blasphème il y a 10 ans et finalement acquittée il y a un peu plus de 6 mois. La chrétienne serait désormais au Canada, là où ses 4 filles ont fui il y a quelques mois. Mais le Premier ministre Justin Trudeau refuse de confirmer pour des raisons, dit-il, de sécurité. L'ANC de Nelson Mandela a gagné toutes les élections depuis la chute de l'apartheid. Il devrait rester au pouvoir en Afrique du Sud. D'après les sondages, les Sud-Africains votent aujourd'hui, élections législatives et régionales. Malgré les scandales et la corruption, l'ANC devrait conserver la majorité à l'Assemblée et Cyril Ramaphosa la présidence. Il a voté ce matin dans le township de Soweto, où il est né, près de Johannesburg, et Noé Oshé-Baudin l'a suivi.
Devant son bureau de vote de Chiawelo, une foule d'électeurs a accueilli le président Cyril Ramaphosa. Ici, il est en terrain conquis. Soweto est un bastion de l'ANC, l'ANC dont il promet le renouveau.
On sait quelles sont nos erreurs et nous en sommes désolés. Mais depuis 25 ans au pouvoir, nous avons réalisé beaucoup de choses. Le verre est à moitié plein, il n'est pas à moitié vide.
Dans la masse, on retrouve quelques-uns de ses anciens voisins ou camarades de classe, comme Agnès, qui continue à voter ANC malgré les polémiques.
Ils ont fait leurs erreurs. Aujourd'hui, c'est leur dernière chance. S'ils ne s'améliorent pas cette fois-ci, alors je voterai pour un autre parti la prochaine fois. Mais pour le moment, je leur donne une chance.
À quelques kilomètres de là, en ville, une interminable queue d'électeurs traverse l'université de Johannesburg, où patientent les étudiants comme Tando, 21 ans.
Je suis d'accord avec le fait que l'ANC a beaucoup fait avec des figures comme Nelson et Winnie Mandela. Mais pour moi, on ne va pas changer les choses si on continue à voter ANC. J'en ai marre, je veux voir du changement et je veux le voir aujourd'hui. Et mon vote reflète ce changement à venir.
Plus d'un jeune sur deux est au chômage dans la nation arc-en-ciel, mais plus d'un jeune sur deux ne s'est également pas inscrit sur les listes électorales. Johannesburg, Noé Oshé-Baudin, France Inter.
Et premier résultat tard dans la nuit. Les traditions tenaces au Royaume-Uni. Harry et Meghan présentent leur fils à la reine après quelques minutes devant les journalistes en bonnet et linge blanc dans les bras de son père. Moins classique, moins attendu en revanche, le prénom de l'enfant Archie et Harrison en deuxième prénom.
Allez, aura-t-on droit à un match incroyable ce soir encore en Ligue des Champions?
Deuxième demi-finale retour de la compétition, l'Ajax Amsterdam, vainqueur 1-0 à l'aller, sera-t-il remonté par Tottenham comme le Barça hier à Liverpool, battu 4-0 alors qu'il l'avait emporté 3-0 à l'aller? Jean-Pierre Blimaud, les supporters de l'Ajax refuse d'envisager ce genre de scénario.
Une ambiance très particulière règne autour du stade ce soir. Les supporters de l'Ajax attendent cette demi-finale retour avec la fièvre des grands soirs, mais aussi avec une certaine appréhension. Marc est un fan de l'Ajax de longue date. Pour lui, le succès 1-0 à l'aller est loin d'être une garantie.
We have to play for a win.
Nous devons jouer pour gagner. Hier, Barcelone a joué pour... Je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, ils n'ont pas essayé de gagner et ils ont perdu. Nous devons donc jouer pour gagner le match.
Car l'exemple de Liverpool, qui a déjoué tous les pronostics en remontant 3 buts hier soir contre Barcelone, trotte évidemment dans toutes les têtes, d'autant plus angoissant pour Edwin que l'Ajax attend une victoire en Ligue des Champions depuis 24 ans.
Ça fait si longtemps. Ce matin, j'y pensais encore en me levant. J'espère que nous allons débuter le match comme si ça faisait 0-0. De toute façon, cela s'annonce délicat.
Les supporters de l'Ajax vont savoir si les jeunes joueurs actuels vont pouvoir supporter le poids de l'histoire de ce club. En attendant, ils veulent y croire.
Au revoir, merci, allez Ajax!
Amsterdam, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
Bon,
ben voilà.
On a compris.
Oui.
Merci Jean-Pierre Blimaud, Ajax, Tottenham, c'est à 21h pour donc affronter Liverpool en finale. Et sinon, depuis presque un peu plus de 17 minutes maintenant, à Châteauroux, finale de la Coupe de France féminine entre Lyon et Lille, et pour l'heure toujours 0-0.
Merci beaucoup Sébastien Paour.